merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici, d'avoir pu participer à ce culte célébration gospel. Vraiment beaucoup de joie. Donc, avec Manu, on se connaît déjà depuis quelques années maintenant. Et en fait, là, je suis dans l'église baptiste de Noisy-le-Grand, à quelques kilomètres d'ici. Et je travaille pour une association chrétienne qui s'appelle France Évangélisation. Et donc, mon travail consiste en gros en trois choses. Une intervention dans les églises, comme un peu ce matin, de l'aumônerie de prison. Je vais au centre pénitentiaire de Meaux à peu près une fois par semaine. Et puis, j'accompagne aussi, très modestement, un petit groupe d'étudiants qui se réunissent sur le campus à cheval sur Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Et donc, j'aime bien me poser des questions aussi sur la foi. Et ce matin, nous nous posons une question importante. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas? Yuri Gagarin, premier homme à avoir effectué un vol spatial en 1961, se serait exclamé après ce vol autour de la Terre: j'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu. En réalité, c'était sans doute le dirigeant Nikita Khrouchtchev qui a prêté ses paroles à Yuri Gagarin. Il n'aurait pas forcément dit lui-même, mais bon, voilà cette phrase assez marquante. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas? En fait, quand nous sommes face à cette question, nous pouvons nous poser cette question parce que nous sommes dans deux cas de figure différents. Peut-être que nous sommes opposés à Dieu, à la foi chrétienne, et nous pensons alors, s'il y avait vraiment un Dieu bon, il voudrait se montrer. Mais il ne se montre pas, donc il n'existe pas. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui est quand même intéressé par la foi, peut-être même qui est chrétien, et qui se dit, mais je n'arrive pas vraiment à saisir Dieu. Pourquoi il ne se montre pas? Pourquoi je vis ma vie chrétienne et finalement je ne vois pas Dieu? Alors j'espère que par ces quelques minutes que nous allons passer ensemble pourront répondre à ces deux états d'esprit. Alors on pourrait répondre à pourquoi Dieu ne se montre pas, parce qu'il est distant. Il est distant, alors il ne se montre pas. Ou alors il est désintéressé. Il n'a pas grand-chose à faire de nous, donc il ne se montre pas. Ou alors, simplement, parce qu'il est silencieux. C'est son caractère. Bertrand Russell, un mathématicien, un philosophe et même homme politique britannique, on lui a demandé un jour s'il se tenait face à Dieu, quelles seraient les raisons pour lesquelles il affirme qu'il n'aurait pas cru en lui. Et il répond: pas assez de preuves, Seigneur, pas assez de preuves. Un autre personnage athée, professeur de philosophie à Yale, Hanson, il écrit ceci: supposez que jeudi matin prochain, juste après le petit déjeuner, tout le monde dans le monde tombe à genoux à cause d'un coup de tonnerre strident et percutant. Tourbillon de neige, les feuilles volent, tombent des arbres, la terre se soulève et se tord, les bâtiments se renversent, les tours tombent, le ciel est en feu avec une angoissante lumière argentée. Juste là, quand toutes les personnes de ce monde regardent vers le haut, le ciel s'ouvre, les nuages s'écartent, dévoilant un personnage qui ressemble à Zeus, incroyablement immense et radieux, dominant sur nous comme Saint Everest. Il fronce sombrement les sourcils. Quand un éclair traverse les traits de son visage à la Michel-Ange, alors il me pointe du doigt et crie à tout homme, femme et enfant d'écouter: j'en ai eu assez de vos punaries trop intelligentes et de vos études en matière de théologie. Sois assuré, M. Hanson, que j'existe bel et bien. S'il vous plaît, il continue, s'il vous plaît, ne rejetez pas cet exemple comme une espiègle et respectueuse astuce à la Disney. Le fait est que si un tel événement venait à se produire, je serais assurément convaincu que Dieu existe. Parfois, nous attendons ça. Que les cieux s'ouvrent et que Dieu dise: oui, j'existe bien et bien. Autour de nous, le chanteur français Francis Cabrel dit ceci, nous allons l'écouter. Dieu nous laisserait-il
sommes-nous condamnés à vivre dans l'incertitude par rapport à Dieu? Est-ce que nous pouvons attendre quelque chose d'autre que cela? Un Dieu qui nous laisserait dans cet état serait-il encore bon? Un Dieu bon veut nous contacter. Or, Dieu, étant tout puissant, peut nous contacter, mais il ne le fait pas. Donc, il n'existe pas. Essayons de répondre à ces questions en d'abord observant la personne de Dieu et ses manifestations. Est-il possible de voir Dieu? Alors, vous savez, dans leur relation avec les païens, qu'on appelle les gens païens, c'était les noms juifs à l'époque, hein, au 1er siècle, les rabbins se voyaient dans l'obligation de défendre l'existence de leur Dieu invisible face au Dieu, justement, des non-juifs qui étaient visibles, ou en tout cas représentés par des statues. Et un jour, on rapporte que l'empereur romain Adrien a dit au rabbin Josué B. Tanania, « Je veux voir ton Dieu. »« Impossible, » répondit-il. L'empereur insista. Le rabbin le fit sortir dans la rue l'été, en plein midi, et lui dit, « Regarde le soleil. »« Je ne puis, » répondit l'empereur. « Si tu ne peux fixer le soleil, qui n'est qu'un serviteur du Saint unique, béni soit-il, comment pourrais-tu regarder l'Éternel ?» Le soleil, j'ai fait des recherches, se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et ce n'est qu'une toute petite création du Dieu créateur qui en a créé des centaines de milliards, rien que dans notre galaxie. Et puis il y a à peu près des centaines de milliards de galaxies. La Bible va aussi dans ce sens, elle nous parle d'un Dieu qui est tellement, tellement grand, tellement puissant, tellement pur aussi, que l'homme qui n'est pas toujours au top dans sa moralité ne pourrait même pas supporter la vue. Il y a par exemple ce texte dans la Genèse, Exode 33-20, en fait, Dieu répond à une question d'Abraham. Abraham lui dit, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Et Dieu ajoute, tu ne pourras pas voir ma face, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Je m'excuse, j'ai dit que c'était Abraham, mais il ne s'agit pas d'Abraham, là, il s'agit de Moïse, excusez-moi. J'ai entendu que certains avaient compris l'erreur, bravo. Et il y a d'autres textes aussi qui nous... Voilà, dans la Bible, qui nous parle que nous ne pouvons pas supporter, pardon, la vue de Dieu tellement il lui est pur et nous ne le sommes pas. Mais quand même, un Dieu bon, même si nous ne pouvons pas le voir dans toute son intégralité, il voudra quand même se manifester, se révéler à nous sous une forme ou une autre. Il ne le fera peut-être pas de manière pleine et entière, mais il nous donnera des indices de son existence. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est celle-ci. Est-ce raisonnable d'exiger comment Dieu devrait se révéler à nous? Vous vous souvenez de la citation de Hanson au début? Lui, il exigeait que ce soit le ciel qui s'ouvre et que Dieu lui parle ainsi. Mais est-ce à nous, finalement, d'exiger la manière dont Dieu doit se révéler? Si vraiment Dieu est Dieu, c'est plutôt à lui de choisir la manière. Et on va voir que Dieu l'a fait de plusieurs manières. Il s'est montré d'abord indirectement avec plusieurs indices. On peut déjà, premier indice, c'est l'expérience de la transcendance. On peut remarquer que dans toutes les civilisations de tous les temps, il y a eu une quête spirituelle envers Dieu. Les gens se sont toujours intéressés à Dieu. Augustin, Saint Augustin, dans son livre Les Confessions, premier chapitre, premier livre, premier paragraphe, il écrit, en s'adressant à Dieu, « Vous nous avez fait pour vous, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. » En fait, nous avons tous cette inquiétude du cœur, cette quête du cœur envers Dieu, et ça, c'est déjà un indice qu'il a mis en nous pour se manifester. C.S. Lewis, un professeur de littérature à Oxford, celui qui a écrit notamment les Chroniques de Narnia, qui a été mis en film, il remarque que ce serait étrange que l'homme ait une soif spirituelle sans qu'il n'y ait rien pour apaiser cette soif. Quand l'homme a faim, il existe la nourriture. Quand l'homme a soif, il existe la boisson. Mais quand l'homme a une quête spirituelle, il devrait quand même exister quelque chose qui répond à ce besoin. On a aussi souvent résumé cette phrase de Blaise Pascal, même s'il n'a pas dit exactement dans ces mots, mais c'est très bien dit. Il y a dans le vide, dans le cœur de l'homme, un vide en forme de Dieu. Nous avons cette quête spirituelle, et cela est un indice que Dieu existe. Plus proche de nous, l'écrivain franco-belge Éric Emmanuel Schmitt nous dit que Dieu est proche de chaque homme. Écoutons-le dans un petit interview, un tout petit extrait qu'il avait donné à BFM TV.
La question Dieu est éternelle depuis que l'homme existe. Dieu est d'ailleurs présent sous la forme, dans chaque homme, sous la forme de la question Dieu. Le minimum syndical de la présence de Dieu, c'est la question que chaque homme se dit, se pose en fait, est-ce que Dieu existe?
Chacun se pose la question un jour ou l'autre de son existence, est-ce que Dieu existe? Et ça, c'est déjà une piste que Dieu nous a donnée pour nous orienter vers lui. Regardons d'autres éléments par lesquels il s'est manifesté. Alors, l'expérience de la transcendance, c'est ce que nous venons de dire. Et puis, l'agencement de l'univers. Dieu a agencé l'univers de telle sorte qu'on puisse se dire, derrière ça, il y a quand même quelque chose. Alors, prenons l'exemple des sculptures sur sable. Vous êtes sans doute déjà baladé le long de la mer et vous avez vu des sculptures sur sable. Alors, il y a des gens qui sont très doux, ils font des voitures, ils font des animaux. C'est vraiment magnifique. Et lorsqu'on passe à côté d'une sculpture sur sable, il ne viendrait à l'idée de personne de dire, oh, quel hasard! Le vent a soufflé les grains de sable de telle manière qu'on a maintenant une voiture ou un lion. Non, vous dites forcément, comme je vois quelque chose de structuré, eh bien, il y a derrière un auteur qui a construit ça, il y a un sculpteur qui a fait cette voiture ou ce lion en sable. Et quand nous regardons l'univers tellement mieux fait qu'une simple sculpture sur sable, et là nous disons, ah ben non, là c'est tout hasard. Au bras d'une sculpture sur sable, une petite voiture en sable, on dit, ben alors forcément il y a un auteur derrière. Et le corps humain tellement bien structuré, qui se renouvelle lui-même, qui grandit, etc., et on se dit, ah ben là c'est pur hasard. Vous voyez, on ne peut pas tenir le même raisonnement devant quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors on pourrait donner des chiffres, mais notamment, l'univers est régi par un certain nombre de constantes physiques qui sont réglées à des précisions extrêmes. Les conditions aussi d'origine de l'univers lorsque l'explosion a eu lieu sont réglées à des précisions assez extraordinaires. Par exemple, la densité de l'univers au moment de son explosion doit être réglée avec une précision de 10 puissance moins 60. Alors là, ça dépasse vraiment toute notre imagination, c'est 0,590. Et en 60e position, vous mettez 1. Et si on fluctue la densité de l'univers à peine un peu au-dessus, eh bien, l'univers se serait effondré sur lui-même et il n'y aurait pas pu avoir la création des étoiles. Et s'il était légèrement moins fort, eh bien, au contraire, les atomes d'hydrogène et d'oxygène n'auraient pas pu s'amasser sur eux pour former les étoiles nécessaires aux éléments lourds et donc au carbone qui compose notre corps. Et 10 puissance moins 60, quelqu'un dit que c'était la précision pour un archer, pardon, de viser dans une cible de 1 cm carré, à peu près comme ça, en timbre poste, située à 14 milliards d'années-lumière. Alors ça dépasse extrêmement notre compréhension. À titre d'exemple, l'instrument le plus précis construit par l'homme peut mesurer des fluctuations à 10 puissance moins 23, et il y a au moins 3 constantes physiques qui doivent être réglées avec une précision de 10 puissance moins 37, c'est-à-dire 100 000 milliards de fois plus précise que l'instrument le plus précis que l'homme n'ait jamais construit. Donc tout ça nous montre que Dieu, quelque part, même dans sa création, il nous donne des pistes de son existence. L'origine aussi de l'univers, on va aller un peu plus vite, mais on peut se dire, si l'univers a commencé à exister, comment le rien peut-il produire quelque chose? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette fameuse question posée par Leibniz et même d'autres avant lui il y a bien longtemps. Et lorsque nous regardons l'être humain, d'où lui vient son sens de l'esthétique, son langage, sa pensée, sa conscience de soi, sa capacité de réflexion, tout ça aussi nous pointe vers l'existence d'un créateur. On pourrait aussi parler des valeurs morales objectives qui sont dans tout homme. Pourquoi avons-nous un sens moral? Pourquoi pouvons-nous distinguer le bien du mal si tout finalement n'est que hasard, si tout n'est qu'une le résultat d'un agencement complexe de molécules? Pourquoi quelque chose est bien, pourquoi quelque chose ne l'est pas? Alors on va dire oui, mais c'est un choix personnel finalement, le bien, le mal. Mais alors dans ce cas-là, comment pouvons-nous juger les actions des terroristes par exemple et les appeler mal? C'est simplement leur choix. Alors on va dire oui, mais simplement la morale nous vient d'un consensus général. Mais seulement cela ne suffit pas. Puisque si on remonte quelques siècles en arrière, l'esclavage était acceptable. Est-ce que pourtant c'était bien? Non. Pourtant le consensus général de l'époque était d'accord. Donc il nous faut quelque chose au-dessus même d'un consensus général pour pouvoir déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors on va dire oui, mais c'est la recherche du plus grand bien possible. Il faut que l'humanité subsiste et tout ce qui favorise le développement de l'humanité est bien. Seulement si on pousse ce raisonnement au maximum, on va dire quelqu'un qui a épousé une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, est-ce que c'est bien qu'il la quitte pour le bien de l'humanité, pour pouvoir procréer? Bien sûr que non. Donc vous voyez que ces arguments-là, toutes les moralités qu'on a essayé de construire sans Dieu, sont confrontées à des limites. Nous avons besoin d'une référence morale objective. Et le fait que nous ayons tous ce sens du bien et du mal en nous pointe en faveur de l'existence de Dieu. Donc Dieu s'est révélé, s'est montré indirectement. Mais plus que ça, Dieu s'est montré personnellement. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, si nous ouvrons la Bible, personne n'a jamais vu Dieu. Bien sûr, ça nous intéresse. Ça commence bien, ces versets, c'est la question qu'on se posait. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Et si on continue à lire l'évangile de Jean, on s'aperçoit que ce Dieu, le Fils unique, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu révéler qui est Dieu. Il est venu nous montrer qui est Dieu. Alors on pourrait se dire, mais il y a quand même un certain degré d'ambivalence. D'un côté, Dieu se montre indirectement, indirectement, mais d'un autre côté, un flou existe toujours. Sa révélation n'est pas tellement forte qu'elle nous paraît une évidence à tous et qu'elle nous écraserait. D'ailleurs, la Bible elle-même tient une certaine ambivalence. On parle des fois de Dieu qui se cache. Par exemple, Jésus, Dieu le Fils est sur la terre, prie Dieu le Père et dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Vous voyez, même la Bible elle-même parle d'un Dieu à la fois qui se montre, mais qui se cache. Alors, comment comprendre cette ambivalence? Le philosophe danois Søren Kierkegaard dans ses Philosophical Fragments, a imaginé cette petite histoire pour expliquer finalement cette ambivalence d'un Dieu qui se révèle et d'un Dieu qui se cache en même temps. Alors, c'est pas exactement ces mots, mais je vous résume son histoire. C'est une petite invention, une petite parabole. Il dit, imaginez qu'il y ait un roi très puissant. Même ses fonctionnaires n'osent pas s'opposer à lui. Ils doivent toujours être d'accord parce que ce roi est tellement grand, tellement puissant, que d'un seul mot, il pourrait les anéantir. Et ce roi, un jour, tombe amoureux d'une jeune servante. Une jeune servante dans un village. Alors il pourrait très bien aller vers la jeune servante et dire « Épouse-moi ». Et elle n'aurait pas d'autre choix que de dire « Oui, oui, je vais t'épouser, hein, je ne peux pas dire le contraire, tu es tellement grand, tellement puissant, voilà ». Mais ce qui intéresse le roi, ce n'est pas que cette jeune femme l'épouse par devoir, par contrainte, mais ce qu'il veut, c'est gagner son cœur. Il veut que cette jeune fille accepte de l'épouser par amour. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il ne va pas venir dans se présenter à cette jeune femme, mais il décide de quitter son vêtement royal et d'endosser un vêtement très humble, un vêtement usé, et de commencer à vivre la vie des gens du village pour gagner finalement le cœur de cette jeune femme. Et donc il explique en fait comme ça, Søren Kierkegaard, il explique comme ça le fait que Dieu à la fois se montre, mais aussi reste discret, ne se montre pas dans toute sa gloire, parce que quelque part, il veut aussi gagner notre cœur. Il cherche aussi une fiancée, quelque part. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que la Bible, à plusieurs reprises, compare l'Église, au sens large, hein, c'est-à-dire l'ensemble du peuple de Dieu, à aussi une fiancée ou une future mariée. Alors, on le voit par exemple dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse, et là, il est question que l'Église dise, viens. Et puis, nous avons aussi une belle comparaison entre l'amour d'un homme et d'une femme, et de Christ et de son Église, dans le livre d'Éphésiens. Une autre raison pourquoi à la fois Dieu se révèle et se cache, c'est qu'il cherche une fiancée, on pourrait dire, mais c'est que le but de Dieu dépasse simplement le simple fait de se montrer. Le but de Dieu, ce n'est pas de gagner un argument, de se montrer, et puis après tous les gens disent « Ah oui, Dieu existe, ouais, c'est vrai ». Non, ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut une relation avec nous. Il y a un verset très intéressant dans Jean 17, 26, il dit « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître ». Donc juste le contexte, c'est Jésus qui parle à Dieu le Père. « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître. Pourquoi ? Pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. » Le but de Dieu, ce n'est pas simplement de se montrer et que tout le monde dise « Oui, tu existes », mais c'est que les gens l'aiment, que nous ayons de l'amour pour lui et même que nous arrivions à une relation tellement forte avec lui que lui vient dans notre cœur pour y habiter. Dieu ne veut pas simplement se montrer et gagner un débat. Il cherche une relation d'amour. Il veut habiter en nous, nous transformer de l'intérieur. Ça ne l'intéresse pas que les gens le reconnaissent simplement ou reconnaissent simplement son existence. Il veut plus. Voilà ce qui pourrait un petit peu nous guider dans à la fois Dieu se révèle, mais Dieu se cache. Mais quand même, on pourrait se dire un bon miracle, comme un peu ce que Hanson voulait, ça nous aiderait à croire. Ça nous aiderait vraiment à croire. Alors c'est vrai, ça pourrait aider, mais pas forcément. Pourquoi ? Encore une fois, je cite Eric Emmanuel Schmitt, qui dans ce livre-là, ce livre autobiographique, raconte qu'il a rencontré Dieu, donc d'une manière miraculeuse. Et puis il écrit ceci. Il dit, le surprenant dans une révélation, c'est que malgré l'évidence éprouvée, on continue à être libre. Libre de ne pas voir ce qui s'est passé. Libre d'en produire une lecture réductrice. Libre de s'en détourner. Libre de l'oublier. Je ne me suis jamais senti si libre qu'après avoir rencontré Dieu, car je détiens encore le pouvoir de le nier. Je ne me suis jamais senti si libre qu'après avoir été manipulé par le destin, car je peux toujours me réfugier dans la superstition du hasard. Une expérience mystique s'avère une expérience paradoxale. La force de Dieu n'annule pas la mienne. Le contact du moi et de l'absolu n'empêche pas de remettre ensuite le moi devant. L'intensité péremptoire des sentiments ne supprime en rien les délibérations de l'intellect. Ce qu'il veut dire par là, c'est que même après un miracle fulgurant, on peut toujours trouver des excuses pour ne pas y croire. D'ailleurs, quand Jésus lui-même a fait des miracles, eh bien, est-ce que ça provoquait la foi des gens qui l'entouraient ? Parfois oui, mais parfois non. Par exemple, une fois il fait un miracle et on l'accuse de guérir au nom de Belzéboul, c'est-à-dire le chef des démons. Cependant, quelques-uns parmi les témoins disaient « C'est pas le pouvoir de Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse des démons. » Il fait un miracle, est-ce que ça suscitait la foi ? Non, ça suscitait le rejet. Et on pourrait voir d'autres exemples encore, notamment quand on pense, par exemple, au peuple hébreu, que Dieu délivre d'une manière extraordinaire, il fait traverser la mer. On pourrait dire, voilà, le peuple, il va croire en Dieu tout le long de son existence. Quelques jours après, et le peuple est infidèle à Dieu. Donc même l'existence d'un miracle, même si ça peut aider, ne garantit pas la foi. Soljenitsyn dit, il est vain d'affirmer ce que le cœur ne confirme pas. Dieu ne cherche pas seulement l'affirmation de son existence, il cherche une relation d'amour avec lui. Et même un miracle ne convertira pas le cœur. Alors si nous essayons de conclure, pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas? Dieu a tout fait pour se révéler, de manière directe, de manière indirecte et de manière personnelle. Il a tout fait pour capter notre attention, y compris venir sur la terre jusqu'à donner sa vie pour nous. Est-ce que cela ne suffit pas à capter notre intérêt? Mais le choix ne s'impose pas à nous. Il nous laisse le choix d'une relation d'amour librement consentie. Je pense que la vraie question n'est pas de justifier l'absence de manifestation de Dieu, mais la vraie question est de savoir est-ce que nous voulons une relation avec Dieu. Francis Schaeffer, un penseur chrétien, disait que pour devenir chrétien, on doit s'agenouiller deux fois. Il disait métaphysiquement et moralement. Alors métaphysiquement pour reconnaître l'existence de Dieu dans sa pensée, mais aussi moralement pour nous soumettre à la volonté et s'engager à l'aimer. Et je pense que lorsqu'on est prêt à se soumettre à Dieu, eh bien alors nous sommes prêts à voir toutes ces manifestations que Dieu avait mises en place pour se révéler. Et nous ne cherchons plus d'excuses en nous disant pourquoi ne se montre-t-il pas. En fait, on pourrait dire la foi en Dieu est comme une illusion d'optique. Dans une illusion d'optique, à partir de la même image, on peut voir une forme ou bien l'autre. Par exemple, ici, soit vous voyez un vase, soit vous voyez deux personnes qui se font face, selon que vous regardez la figure blanche ou la figure qui apparaît en noir. Et avec la foi en Dieu, c'est un petit peu pareil. Il y a assez d'indices pour voir la figure, mais en même temps, le dessin est assez discret pour ne pas s'imposer à nous. Il nous laisse assez de liberté pour refuser de voir notre image, refuser de la voir. Finalement, la question est, où en est votre cœur? Veut-il une relation d'amour avec Dieu? Parce que Dieu, de son côté, nous laisse des promesses. Par exemple, il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors revenons aux questions du début. Dieu est-il distant? Il ne se montre pas parce qu'il est distant. Eh bien en fait, Dieu n'est pas distant. C'est plutôt le contraire, il est très proche. Il est même venu en personne nous rendre visite. Il est venu en personne nous rendre visite. Un des noms du Messie, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu, il s'est fait proche. Dieu est-il désintéressé? C'est pour ça qu'il ne se montre pas. Non seulement Dieu n'est pas désintéressé par ce monde, mais il est tellement intéressé qu'il a pris part à ce monde. Il est rentré dans l'histoire de ce monde qu'il avait créé. Alors imaginons qu'il y a un groupe de personnes qui croient que je n'existe pas. Tous les mardis soirs, ils se réunissent pour discuter de ma non-existence. Alors un mardi soir, je pourrais venir dans leur réunion et leur dire « Coucou, j'existe, Thomas, c'est moi ». Mais cela ne changerait pas leur vie. Cela mettrait peut-être fin au débat, mais cela ne changerait pas la vie de ces personnes. Quand Dieu est venu dans ce monde, dans la personne de Jésus, il avait plus que gagner un débat pour prouver son existence, il est venu pour régler le plus grand problème de notre monde. Il est suffisamment intéressé par vous et par moi, qu'il n'a pas fait seulement venir, mais qu'il a accepté de mourir. Il a accepté de prendre tout ce qui était déréglé dans nos vies, et d'en payer la conséquence, la mort, sur une croix, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Et le résultat, c'est que maintenant, nous pouvons non seulement connaître des choses sur Dieu, mais nous pouvons même connaître Dieu directement dans une relation d'amitié. Nous l'avons chanté encore ce matin. Dieu est-il silencieux?
C'est pour ça que nous ne le voyons pas, c'est pour ça qu'il ne se montre pas. Eh bien, à travers Jésus, Dieu a parlé clairement et distinctement dans l'histoire. Dieu est venu près et a parlé. C'est un petit peu comme une radio. Vous savez, les ondes radio, elles sont diffusées tout le temps. Seulement, je n'entends pas la radio tout le temps parce que je n'ai pas allumé mon poste de radio. Mais ça ne veut pas dire que la radio n'est pas là autour de nous et ne veut pas nous envoyer des messages. Seulement, il faut que j'allume ma radio pour recevoir le message qui m'est donné. Et c'est un petit peu comme ça. Dieu a parlé, Dieu parle encore maintenant. Mais avons-nous allumé notre récepteur? Avons-nous ouvert notre cœur? Faisons-nous confiance à l'enseignement de la Bible pour que Dieu nous parle encore aujourd'hui? Sommes-nous ouverts à son esprit qui vient nous parler? Parce que si Dieu a parlé, si Dieu parle, ça vaut vraiment le coup de l'écouter.